Le grand témoin.
Le grand témoin.
Louis Dauphresne.
Il est temps d'oser continuer à chercher la vérité en s'appuyant sur les seuls fondements qui peuvent faire rempart aux intrigues et rassembler les personnes de bonne volonté, le réel et la raison. Il est temps également d'oser les décloisonnements sans confusion que Claude Tresmontant a su opérer entre les disciplines. Alors précisément, j'ai cité un nom que vous ne connaissez peut-être pas, Claude Tresmontant, auquel un colloque est consacré bientôt. Ça se passe à l'École Normale Supérieure, ça se passe les 13 et 14 mai. C'est une figure dont nous allons parler ce matin. Vous allez me dire, ça n'a aucun rapport avec l'actualité. Ça n'est pas vrai. Et justement, le père François-Xavier de Guibert, qui a été éditeur, qui a édité Claude Tresmontant pendant très longtemps, eh bien justement, va nous en parler parce que l'année 2017 marque le 20e anniversaire de la mort de ce philosophe, de cet historien, de ce métaphysicien éminent du christianisme, spécialiste de l'historicité des évangiles, du prophétisme hébreu, des allusions techniques du XXe siècle. Il s'inscrit dans la lignée de grands penseurs. On va faire remonter en quelque sorte sa généalogie, celle de sa pensée. C'est le père François-Xavier de Guibert qui va nous en parler et il pose des questions essentielles, Claude Tresmontant, pour le christianisme et bien sûr tous nos contemporains. Bonjour, père François-Xavier de Guibert.
Bonjour.
Vous avez été éditeur pendant combien ? 16 ans ?
J'ai été éditeur.
Non, mais de Claude Tresmontant.
De Claude Tresmontant pendant à peu près 14 ans.
Voilà. Aujourd'hui, vous êtes curé de campagne près de Dijon.
Oui. Et je n'ai pas le sentiment que ça représente une rupture fondamentale, même si, bien évidemment, tout ça ne s'est pas fait d'un seul coup. Mais ce qui est clair, c'est que, au fond, j'ai le sentiment d'avoir beaucoup reçu de cet homme que j'ai eu l'honneur d'éditer, de côtoyer pendant donc une petite quinzaine d'années.
Et l'année 2017 est un peu la sienne. En tout cas, vous avez voulu marquer le coup.
Alors, vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que Claude Tresmontant est un homme qui est mort dans une certaine solitude, après avoir connu comme auteur une célébrité certaine et une renommée très importante. Sa vie d'auteur se partage à peu près en deux grandes périodes. La première période, c'est celle qui, en fait, a commencé avec un premier livre fulgurant, qui a été publié aux éditions du Cerf au début des années 60 et qui s'intitulait « Essai sur la pensée hébraïque ». Et cet essai sur la pensée hébraïque, c'est extraordinaire parce que c'était un petit livre qui finalement résumait tout le programme de son œuvre. Je dois dire que j'ai rencontré beaucoup d'auteurs dans ma vie, mais j'ai rarement vu un tel phénomène intellectuel, et je dirais même spirituel, dans la continuité d'une œuvre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de changement.
Une œuvre abondante. Hein,
une œuvre abondante, plus d'une quarantaine d'ouvrages qui n'étaient pas des romans de gare et qui étaient des ouvrages qui étaient véritablement le fruit du travail d'une pensée. Et je trouve qu'il y a un petit clin d'œil humoristique, mais après tout, l'humour, ça vient de Dieu, dans le fait que nous nous retrouvions pour parler de Claude Tresmontant aujourd'hui, 1er mai, fête de Saint-Joseph travailleur, c'est-à-dire artisan. Travailleur, parce que lui-même se définissait toujours comme artisan métaphysicien établi à son compte. Et d'ailleurs, il avait une manière d'être extraordinairement concrète, humble, chosiste, concrète. Et il se déplaçait toujours avec une grosse sacoche de cuir magnifique, de plombier, qu'il avait fait faire d'ailleurs par son cordonnier, dans laquelle il y avait ses outils. C'est-à-dire la Bible hébraïque, le Nouveau Testament grec, et puis l'Enchiridion Symbolorum, c'est-à-dire en fait le recueil des grands textes qui sont en fait l'expression de la pensée de l'Église.
Alors François-Xavier de Guibert, peut-être faut-il, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le connaîtraient pas et qui cherchent à savoir ce qu'il a apporté à la pensée, comment est-ce qu'on peut-être, et puis on va développer tout cela, comment est-ce qu'on peut résumer sa contribution ?
Écoutez, c'est une...
En fait, pourquoi est-ce qu'on en parle 20 ans après ?
Pourquoi est-ce qu'on en parle 20 ans après ? Parce qu'en fait, finalement, l'essence de sa démarche, qui est une démarche réaliste de recherche de la vérité, est quelque chose qui finalement ne vieillit pas. Tous ceux qui cherchent la vérité avec honnêteté, eh bien évidemment, sont des gens qui sont dans la permanence, dans le vrai et dans le réel, c'est-à-dire au-delà, totalement au-delà des modes. Voyez. Et ce qui me frappe chez Claude Tresmontant, c'est que quand on reprend ses livres aujourd'hui, aussi bien ceux qui ont été édités aux éditions du Seuil, puisque finalement toute la première partie de son œuvre a été publiée aux éditions du Seuil, où il a édité des livres qui ont connu un très grand succès, qui ont été salués par les penseurs de l'époque, aussi bien des François Mauriac, notamment dans un bloc-notes fulgurant sur le grand livre de Tresmontant, « Comment se pose aujourd'hui le problème de l'existence de Dieu ?» Eh bien, voyez-vous, tout cela, ça n'a pas vieilli, ça n'a pas pris une ride. Pourquoi ? Parce que la question, c'est une recherche humble et exigeante de la vérité à partir, si vous voulez, de ce que l'expérience humaine peut nous donner de naître. Et ça, de ce point de vue, évidemment, eh bien, l'œuvre de Claude Tresmontant, voyez-vous, c'est une œuvre absolument fondatrice. Et ce qui me frappe, c'est que justement, démonstration, application, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, 20 ans après sa mort, dans un quasi-oubli, je peux en témoigner puisque j'avais l'honneur d'être son éditeur à l'époque, eh bien, des jeunes philosophes se lèvent et considèrent qu'en fait, il y a là la source d'une inspiration et qu'il y a là un trésor dans l'ordre de la pensée qui non seulement mérite d'être exhumé comme une espèce de témoignage qui lui soit rendu, mais bien plus profondément que cela, comme la base d'un travail qui peut maintenant être poursuivi. Voyez-vous. Et autrement dit, ce qui est très important, on n'est pas là pour faire, avec le colloque qui est organisé, c'est pas un travail de mémoire, c'est pas un anniversaire, voyez ce que je veux dire, hein. On n'est pas dans le culte d'un passé qui est révolu et qu'on essaierait d'instrumentaliser. C'est tout à fait différent. Il y a dans la pensée de Claude Tresmontant quelque chose qui finalement met en route des intelligences libres aujourd'hui.
Mais est-ce qu'il est enseigné ?
Alors, il n'est pas enseigné, non, évidemment, parce qu'il ne fait pas l'objet d'un enseignement, ça c'est tout à fait clair. Enfin, à ma connaissance, non. Mais il est encore lu.
L'Église pourrait se l'approprier comme étant l'un, je ne sais pas, des maîtres à penser,
que je
pourrait
dire,
communiquer à ceux qui veulent se former.
Eh bien, écoutez, exemple. Je vais peut-être être prophète ce matin, je vais vous dire, je pense que l'Église se l'appropriera, mais qu'elle ne se l'est pas encore appropriée.
Et pourquoi ?
Elle ne se l'est pas appropriée parce que c'était un esprit trop libre. Et qu'au fond, finalement, d'une certaine manière, il était décalé par rapport à ce qu'a été la vie de l'Église, on peut dire, dans les 40 dernières années. Et ça a été finalement un des grands combats de sa vie. C'est comment, finalement, faire connaître le christianisme, mais le faire connaître d'une manière plus intelligente, ayant le courage de le dire, qu'il ne l'était justement dans ces 40 dernières années. Et je voudrais à ce sujet, eh bien, tout simplement vous lire, parce qu'après tout, il faut lui donner la parole, hein, vous lire un texte qui pour moi a beaucoup d'importance parce que j'ai vu ce texte élaboré devant moi. Nous préparions à la sortie d'un livre admirable qui s'appelle et qui est toujours disponible, « L'histoire de l'univers et le sens de la création ». Et comme tout éditeur, eh bien, il me revenait la tâche de faire ce qu'on appelle la quatrième de couverture, c'est-à-dire le texte qu'on va lire quand on prend le livre, qu'on le retourne et qu'on se dit « qu'est-ce qu'il y a donc dans ce bouquin ?» Et donc, c'est de la tâche, normalement, de l'éditeur. Mais quand il s'agissait des ouvrages de Claude Tresmontant, bon, je lui soumettais toujours ma copie. Et je me souviens que j'étais venu chez lui dans son pensoir, cet petit appartement qu'il occupait rue Laumont, dans le 5e arrondissement, dans un bureau qui était encombré de ses manuscrits, de ses livres de référence. Et habité par les photos de ceux qui avaient été ses maîtres, qu'il s'agisse du père Teilhard de Chardin, qu'il a très bien connu et dont il a été l'éditeur aux éditions du Seuil, puisque c'est lui qui a été l'intermédiaire entre celle qui était l'exécutrice testamentaire et l'éditeur, et qui a établi les textes de Teilhard. Donc c'était un travail considérable et décisif. Et puis saint Thomas Aquin, Jean Duns Scott, le cardinal Newman. Et ce qui était extraordinaire, c'est que dans ce petit bureau du 5e arrondissement, eh bien, on était hors du temps. Il parlait de saint Thomas en disant, ben voilà, il y a 5 siècles, à côté, à la Sorbonne, saint Thomas nous racontait que. Et donc nous vivions non pas dans l'ordre du temps des hommes, mais dans l'ordre du temps de la pensée. Et la pensée, eh bien, si elle est juste et si elle cherche la vérité, a priori, elle ne vieillit pas, elle ne bouge pas, elle ne change pas.
Alors, Père François Xavier de Guibert, justement, ce texte.
On était en train d'aller. Alors, je lui montre ma pauvre petite copie. Et avec son indulgence et sa discrétion habituelle, il me dit : bon, écoutez, c'est très bien, mais si vous voulez, nous allons le faire ensemble, ce texte. Alors, ce qui voulait dire, en fait, je vais le faire pour vous. Et alors il s'est établi, il s'est mis devant sa petite machine à écrire, une machine classique, voilà, à clavier, hein, sur laquelle il tapait à deux doigts, comme les gendarmes, mais rapidement. Et il s'est mis à sa machine et il a tapé d'un seul trait, sans rature, sans reprise, le texte que je vais vous lire et qui est, à mon avis, qui résume très bien l'essentiel de sa pensée, essentiellement d'ailleurs sur la question du christianisme.
Alors allez-y.
Alors, voilà, Claude... ce qu'il a écrit d'un seul trait devant moi.
Claude Tresmontant par François-Xavier de Guibert.
À l'aube du 21e siècle, on n'était pas encore dans le 21e siècle, le premier problème qui s'impose au monothéisme annoncé aux Hébreux et achevé par le Christ, c'est d'abord la question de savoir s'il va finir par être intelligible pour les nations païennes auxquelles il est destiné. C'est un problème de langue. La révélation qui a constitué le monothéisme hébreu a été communiquée en hébreu, puis traduite en grec, puis traduite en latin, puis dans les langues des nations. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais je sais qu'en France, la plupart du temps, les enfants comme leurs aînés ne comprennent pas le sens des mots et des termes dans lesquels et par lesquels est formulé le message du monothéisme chrétien. Immédiatement après cette question de la langue, se pose la deuxième question. Ce message a-t-il un intérêt ? Est-il désirable pour les nations des païens d'aujourd'hui ? Car toutes les nations sont encore aujourd'hui et comme hier païennes. Et pour que le monothéisme hébreu et chrétien soit désirable, encore faut-il qu'il soit présenté dans l'intégralité de son contenu, c'est-à-dire qu'il manifeste et fasse connaître la finalité de la création, qui est la finalité de l'univers. C'est cette finalité qui est l'objet du désir naturel de l'homme. Enfin, troisième point essentiel, l'humanité est de plus en plus formée par les sciences expérimentales, et c'est un grand bien pour elle. L'intelligence humaine apprend à distinguer le réel du fantasme, l'expérience du mythe, la pensée rationnelle du délire. Elle apprend quels sont les critères de la vérité et les critères de la certitude. Non seulement le message que constitue le monothéisme chrétien doit être présenté en sorte qu'il soit intelligible, non seulement il doit être présenté en sorte qu'il soit désirable, mais de plus, il doit être exposé de telle sorte que l'intelligence humaine puisse s'assurer qu'il est vrai. La question centrale, c'est donc d'intégrer les connaissances que nous sommes en train d'acquérir par les sciences de l'univers et de la nature et les connaissances qui nous sont communiquées par la révélation. Autrement dit, d'intégrer l'enseignement de la création et l'enseignement de la révélation dans l'unité d'une vision du monde intelligible, désirable et vérifiable.
On voit l'intérêt qu'il porte évidemment au lien entre la raison, l'intelligence humaine et ce qui est donné à l'homme, ce qui est présent
Absolument.
À nous dans la nature.
Nous sommes informés, en fait, voyez-vous, le christianisme est au carrefour de deux informations. L'information que nous recevons de l'univers, de la création, l'information qui nous est donnée par la nature, le réel qui nous entoure et au réel auquel notre intelligence est adaptée.
Réel et raison, en fait, c'est ça.
Absolument. Et la raison est là pour finalement analyser, comprendre et à partir du donné, de ce que nous recevons, eh bien, par un raisonnement inductif, finalement, monter au-delà même du réel. Et c'est tout le travail de l'intelligence métaphysicienne, c'est-à-dire au-delà du réel, le vrai.
En quoi ce message, Père François-Xavier de Guibert, puis on va passer ensuite votre portrait pour resituer un peu votre itinéraire, en quoi ce message est-il si dérangeant que cela ?
Il est dérangeant parce que finalement, pour Claude Tresmontant, la seule question qui vaille, c'est la question de la vérité. Or, de nos jours, si vous voulez, sur les questions...
Mais pour l'Église aussi.
Tout à fait. Mais sur les questions religieuses, et je tiens à dire que Claude Tresmontant n'aimait pas du tout ce mot de religion, parce qu'il estimait que c'était un mot fourre-tout et très ambigu. Et donc, sur ces questions, au fond, eh bien, de nos jours, on considère que la question de la vérité est une question dangereuse, dérangeante. Parce qu'effectivement, si... il y a une vérité en matière religieuse, et encore une fois, j'emploie ce mot avec beaucoup de prudence, et pour le dire d'une manière plus positive, si le christianisme est la vérité que d'ailleurs il a toujours prétendu être, à ce moment-là, ça veut dire que ceux qui disent le contraire sont finalement dans l'erreur. Alors, le problème, c'est que c'est évidemment très dérangeant parce qu'on, de nos jours, on considère que sur ces questions, tout le monde a raison et que chacun a sa vérité. Finalement, nous sommes tous des disciples de Ionesco, à chacun sa vérité. Évidemment, c'est un discours...
La paix sociale est à ce prix.
La paix sociale est à ce prix, la paix religieuse est à ce prix, la paix entre les peuples est à ce prix, la paix dans les civilisations est à ce prix. Autrement dit, il faudrait que nous renoncions à l'idée même de vérité pour finalement vivre en paix. Alors, je crois que c'est une erreur évidemment profonde. D'ailleurs, l'expérience le montre, au fond. Alors, évidemment, la question, c'est que... L'erreur engendre la guerre. L'erreur ne peut rien engendrer d'autre que la guerre et les conflits. Par conséquent, évidemment, dans un premier temps, on peut toujours jeter le manteau de l'agnosticisme et le manteau du scepticisme sur toutes les difficultés de l'homme. Mais au fond, nous le savons bien, l'homme est fait pour la vérité. Et d'ailleurs, il cherche la vérité et son âme est sans repos tant qu'il n'a pas trouvé la vérité. Et donc, si nous prétendons finalement donner du Tranxène et du Fénergan pour éviter finalement les conflits, eh bien, on ne donnera rien du tout parce qu'au fond, finalement, l'homme devra renoncer à lui-même.
Mieux vaut nourrir l'intelligence. Alors ce colloque, justement, vous avez dit, ce n'était pas un colloque destiné à être simplement un anniversaire, mais plutôt une forme de mise à la disposition du public d'une pensée qui aujourd'hui n'est pas forcément extrêmement utilisée. 13 et 14 mai à l'École normale supérieure, avec vous, Père François-Xavier de Guibert, d'autres invités, on va en reparler.
Mais surtout des jeunes, parce que voyez-vous, moi j'ai le sentiment, à mon âge, de maintenant, vous comprenez, je ne suis plus qu'un vieux monsieur. Je ne dis pas ça par coquetterie, mais je dis ça parce que ce qui est très important, c'est que l'initiative de ce colloque et l'organisation de ce colloque, ce sont des jeunes philosophes. Autrement dit, il y a quelque chose de nouveau qui se lève et dont finalement le germe, c'est cette pensée de Tresmontant, cette pensée qui finalement n'était pas la pensée de Tresmontant, puisqu'au fond, Tresmontant n'a cherché jamais qu'une chose, c'est à exprimer de son mieux la pensée qui nous vient à la fois de la création et de la révélation dans cette unité d'une vision du monde que porte l'Église depuis le Christ.
François-Xavier de Guibert, notre grand témoin ce matin, allait avec beaucoup de retard le portrait. Rappel de votre itinéraire, toutes les figures que vous avez rencontrées, éditées, puisqu'avant d'être prêtre, vous étiez éditeur, on l'a rappelé tout à l'heure. Claude Tresmontant a évidemment été pour vous une rencontre décisive, il n'y a pas eu que celle-ci. Tout cela vous a apporté beaucoup de choses, Père François-Xavier de Guibert. C'est Marion Duchesne.
À travers eux, j'ai rencontré le Christ, explique le père François-Xavier de Guibert. Car avant de devenir curé de la paroisse de Saint-Julien, près de Dijon, il a d'abord été éditeur religieux durant 42 ans. Le fruit de la providence, sans doute, pour celui qui est né en 1946 en une famille catholique, qui a suivi des études de droit et de sciences politiques à Nancy, puis à Paris. Paris où le jeune François-Xavier de Guibert loge pendant un temps chez les Maristes, au 104 de la rue de Vaugirard. Il y avait une effervescence intellectuelle extraordinaire, se souvient-il, à l'époque. L'étudiant travaille pour une petite revue, il rencontre Mauriac, Maurice Clavel, Philippe de Saint-Robert et le futur cardinal Danielou. C'est en m'occupant des liens avec la maison d'Esclée de Brouwer que je suis tombé dans la potion magique. Les éditions DDB, dont il prend la tête en 1974. 9 ans plus tard, François-Xavier de Guibert fonde la maison d'édition qui porte son nom. « C'est un risque que je ne regrette pas d'avoir pris », répète-t-il. « J'ai été condamné à la plus belle des condamnations, être libre ». En 2001, après 30 ans de mariage, ce père de 5 enfants perd son épouse. Pour celui qui, dans sa jeunesse, avait songé au service du Seigneur et de l'Église, le sacerdoce devient une évidence. Après 4 années d'études au Centre Sèvres et le rachat de sa maison d'édition par Desclée de Brouwer, François-Xavier de Guibert est ordonné prêtre le 26 juin 2011. C'est l'accomplissement en plénitude de tout ce que j'ai fait, conclut-il, la continuité de mon mariage.
En un mot, Père François-Xavier de Guibert, avant de reparler de Claude Tresmontant tout à l'heure, juste après 8h, après les infos, sur votre parcours aujourd'hui, vous êtes curé de campagne dans ce qu'on appellerait peut-être la France périphérique, une France qui est en souffrance. Vous le sentez, ça ?
Oui, certainement, encore que je sois dans une petite paroisse composée de 12 petits clochers qui sont disséminés dans la campagne de Bourguignonne, dans la plaine de la Saône. Et donc, dans une région qui est calme, qui est relativement favorisée, et donc qui ne connaît pas les drames de certaines régions de France, avec une désindustrialisation massive et un chômage de masse et tous les problèmes que nous savons liés à l'absence du travail. Car il faut bien le dire, le travail c'est la dignité de l'homme, et l'absence de travail est un drame sur lequel on s'est assis beaucoup trop facilement, parce que dans le fond, les élites se font très, très bien au chômage des autres. Ça ne les gêne pas. Et donc, c'est une paroisse qui ne connaît pas de très gros problèmes. En même temps, c'est une paroisse dans laquelle on peut constater, d'une certaine manière, les difficultés à faire passer le message de l'Évangile. Et je dois dire qu'à ce sujet, l'œuvre de Claude Tresmontant m'est d'un très grand secours.
Justement, on va y revenir. Père François-Xavier de Guibert va continuer dans la lignée de cette réflexion autour de la figure de Claude Tresmontant, 20e anniversaire de sa mort. Un colloque donc à l'École normale supérieure, les 13 et 14 mai. Vous nous en parlez ce matin. On se retrouve juste après.
Le grand témoin, la rediffusion.
Allez, ce matin, si vous prenez l'antenne à l'instant, ce lundi 1er mai 2017, sachez qu'on parle de la figure de Claude Tresmontant, philosophe, historien, penseur du christianisme qui mérite d'être redécouvert. Justement, un colloque lui est consacré à l'École normale supérieure, 13 et 14 mai. Le père François-Xavier de Guibert le connaît bien, il l'a édité pendant 14 ans avec une œuvre extrêmement abondante, plus de 40 ouvrages. Et alors, père, vous disiez juste avant 8 heures, je me permets de faire une synthèse des 3 points tout à fait essentiels que vous avez exposés. Le premier, c'est la question de la langue. Est-ce que le christianisme aujourd'hui est intelligible, sachant qu'il a été traduit ? Est-ce qu'il y a même, on pourrait pousser la réflexion plus loin en disant, est-ce que son langage est encore compris de nos contemporains ? Est-ce que les mots disent bien ce qu'ils veulent dire ? Ça, c'est le premier point. Puis ce deuxième point que vous avez dit, c'est le caractère du désir. Est-ce qu'il est désirable ? Est-ce que le monothéisme chrétien peut être désiré par nos contemporains ? Et pourquoi ? Et puis, la question de la science, essentielle. Il n'y a pas de rejet de la science. Bien au contraire, c'est une façon, pour l'homme, de confronter le réel à ses propres délires et ne pas partir dans le fantasme et finalement de chercher une forme de vérité. Ça, c'est bien les 3 points que vous avez exposés à partir de Claude.
Le christianisme est inséparable de la question de la vérité.
Voilà. Est-ce qu'on cherche encore la vérité aujourd'hui ? Est-ce que l'homme a encore, lui, ce désir de rechercher la vérité ?
Mais je crois que c'est la question centrale. On peut dire que le mot vérité est le mot tabou. Et Claude Tresmontant, justement, me disait « Mais si on cherche la vérité, on est obligé de dialoguer. Mais aujourd'hui, personne ne veut plus débattre avec personne parce qu'au fond, c'est un trop grand risque. » Parce que celui qui rentre en débat, celui qui dialogue en cherchant honnêtement la vérité, il prend un très grand risque parce qu'effectivement, il peut se trouver confronté au drame de devoir renoncer à ses idées, à ses convictions, parce qu'en fait, finalement, il sera bien établi qu'il est dans l'erreur. Ce n'est pas un péché d'être dans l'erreur. Ce qui est plutôt un péché, ce qui est une erreur, c'est finalement de ne pas vouloir chercher la vérité. Et donc, sur cette question...
Mais la vérité, c'est toujours ma vérité, non ?
C'est ça, le danger. La vérité, alors le problème, c'est ça. Le problème, c'est que la vérité, eh bien, c'est un rapport objectif au réel. Et donc, nous ne sommes pas, évidemment, propriétaires de la vérité. Nous la voyons, la vérité. Les chrétiens ont toujours prétendu, justement, parce que c'est leur fonction, ils ont toujours prétendu non pas avoir la vérité, mais être chargés de la dire. Au fond, le facteur n'est pas propriétaire de la lettre, mais il la transmet.
C'est ça.
Et il ne se permet pas de modifier la lettre, évidemment. C'est clair. Alors le facteur, il n'est pas toujours terrible. Quelquefois, il a bu un coup de trop chez la voisine avant de passer à la suite de sa tournée. Et il n'a pas toujours les pieds propres. Mais il n'empêche qu'il transmet la lettre. Et l'Église, finalement, c'est celle qui transmet la lettre de la vérité. Et dont elle n'est pas propriétaire, mais dont elle est responsable d'assurer la transmission.
En quoi Claude Tresmontant est-il en rupture par rapport à ce qui peut dominer la philosophie ?
Alors justement, voyez, dans un entretien avec un journaliste de La Voix du Nord, il y a une quarantaine d'années.
Donc c'est Problèmes de notre temps.
Qui est repris dans un grand livre intitulé « Problèmes de notre temps ». Robert Descoux lui posait la question « N'avez-vous pas l'impression d'aller à contre-courant de la pensée contemporaine ?» Et donc exactement ce que vous dites. « Est-elle encore actuelle, cette philosophie chrétienne dont vous êtes l'un des serviteurs les plus inlassables ?» Tresmontant répondait « Je vais en effet consciemment et délibérément à contre-courant des tendances dominantes et majoritaires de la pensée philosophique contemporaine. » D'abord parce que je pense que l'analyse philosophique doit avoir une base scientifique et expérimentale. La philosophie n'est pas de la littérature. L'analyse philosophique doit partir de la réalité objective et expérimentale que les sciences ont explorée. L'analyse philosophique doit traiter les problèmes qui s'imposent à l'intelligence humaine à partir de la réalité objective, l'univers, la nature, l'homme. Ces problèmes que les sciences expérimentales en tant que telles ne sont pas en mesure de traiter, par exemple le problème de l'origine radicale ou celui de la finalité ultime de l'évolution cosmique, physique et biologique. Je suis donc à contre-courant à cause de ce point de départ que j'assigne à l'analyse philosophique, mais aussi parce que je pense que l'analyse philosophique est possible, contre le scepticisme et contre l'agnosticisme. L'intelligence humaine, si elle s'y prend bien, peut répondre aux questions qu'elle se pose. La grande majorité de mes collègues en philosophie pensent que la philosophie est morte et enterrée. Il ne reste plus que l'histoire passée de la philosophie d'autrefois. Tout le monde, ou presque, désespère de l'analyse philosophique, c'est-à-dire de la capacité de la raison humaine de répondre aux questions qui s'imposent à elle. L'influence du kantisme, du positivisme et du néopositivisme reste à cet égard dominante. Pour ma part, je professe un rationalisme intégral, c'est-à-dire que l'intelligence humaine est capable d'aller finalement jusqu'au bout de ses propres désirs, juste et y compris dans l'ordre de l'analyse métaphysique.
Et ça, c'est... Alors, ça traduit un peu, Père François-Xavier de Guibert, parce qu'il y a quand même des mots un petit peu complexes.
Oui.
Si on traduit un peu, qu'est-ce que ça veut dire par rapport... Alors moi, il y a une question que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous disiez tout à l'heure que c'est si dérangeant que cela pour que l'Église ne se l'approprie pas comme elle aurait pu le faire.
Je vais vous dire, alors je vais peut-être être un peu polémique et simpliste, mais après tout, il faut aller au bout des questions et ne pas avoir peur de choquer. Je pense que beaucoup de théologiens, de penseurs et de philosophes chrétiens ont pensé que dans le fond, il fallait être d'accord avec les présupposés du monde contemporain pour pouvoir y annoncer l'Évangile.
Par exemple,
notamment le présupposé fondamental qui est qu'au fond, il ne faut pas fonder le christianisme sur le rocher qui lui est pourtant essentiel, à savoir la question de l'existence de Dieu telle que la raison nous propose et nous permet d'en avoir la certitude. Et c'est justement cette question essentielle qui fait qu'on est arrivé au paradoxe que la foi est devenue le doute, et que nous avons intégré complètement l'expression populaire « j'y vais avec des yeux de la foi », c'est-à-dire que j'y vais sans rien comprendre.
Alors Claude Tresmontant est totalement contre ça.
Exactement contre ça. Et donc,
parce que là, on est dans la croyance délirante.
La croyance. Et au fond, les chrétiens ont intégré et accepté ce qui est une trahison intellectuelle majeure, faut pas avoir la peur de le dire, les présupposent philosophiques qui consistent à dire que, dans le fond, la métaphysique est impossible et que la connaissance de l'existence de Dieu par la raison, eh bien, c'est quelque chose qui n'a pas de fondement.
Et c'est là que surgit le risque, en fait, si on doit boucler avec une certaine forme d'actualité, l'intégrisme religieux naît en fait de ce déracinement intellectuel et de ce délire-là.
Évidemment. Contrairement
à ce que vous êtes ancré dans la raison, dès lors que vous considérez que vous pouvez y accéder par votre propre raison, tout ce que Benoît XVI a pu développer d'ailleurs
exactement.
Au cours de son pontificat,
de ce point de
vous êtes enraciné. Est-ce qu'il en a parlé, Benoît XVI, de Claude Tresmontant un petit peu d'ailleurs ?
Eh bien écoutez, je ne sais pas s'il en a parlé, mais je sais qu'à plusieurs reprises, il y a des allusions très claires à, comment dirais-je, à la pensée de Claude Tresmontant. Et je crois que de ce point de vue, finalement, Claude Tresmontant, il est dans la tradition de l'Église, dans la grande tradition de l'Église, sur évidemment la convergence entre la foi et la raison. Il n'y a aucun divorce entre la foi et la raison. Et la foi, elle est même fondée sur un rationalisme véritable. Et donc,
c'est l'avantage comparatif du christianisme.
Absolument.
Par rapport à des croyances
absolument.
Mythiques, etc.
Et donc, vous voyez ce que.
Alors, il y a l'impensable de l'athéisme qui est peut-être dérangeant là aussi.
Voilà, c'est capital. Dans un livre qui avait été publié aux éditions du Seuil et qui, je crois, va être heureusement réédité.
Alors, c'est une question que j'allais vous poser.
Comment se pose aujourd'hui le problème de l'existence de Dieu ? Dans l'épilogue, il disait ceci, qui finalement reprend ce que nous venons de dire. En d'autres termes, nous trouvons aujourd'hui en présence, grâce aux sciences positives, d'un fait incontestable et incontesté. Depuis plusieurs milliards d'années, une création est en train de se faire ou d'être faite. Du simple au complexe, du diffus à l'organisé, du non-vivant au vivant et au pensant, du moins au plus. Nous sommes dans un univers en régime de création continuée et inachevée. Cette création peut-elle se penser seule ? Cela est impossible, contradictoire à tous les niveaux. On n'y parvient que par une série d'opérations frauduleuses, dans l'ordre de l'intelligence, qui consistent à attribuer gratuitement à la matière initiale la capacité de s'être créée elle-même, ce qui est absurde, et le pouvoir de s'organiser elle-même, de se donner à elle-même la vie et la pensée qu'elle n'avait pas, ce qui est absurde. L'athéisme pur est impensable et il n'a jamais en fait été pensé. Ce qui peut s'appeler penser, non seulement dire ou bruiter une apparence de parole, mais intégrer le donné, en l'occurrence le monde. Et donc cette force de conviction que l'athéisme est finalement impensable aujourd'hui, compte tenu de ce que nous connaissons de l'histoire de l'univers et de la création, c'est le fondement qui finalement ne fait que développer et expliciter ce qui est le fondement même de la révélation, c'est-à-dire que pour que Dieu cause, encore faut-il que nous soyons certains qu'il existe. Sinon, nous sommes dans une opération extrêmement périlleuse, parce que nous allons finalement mettre notre foi, notre confiance, dans la parole de quelqu'un dont l'existence n'est pas certaine.
Mais aujourd'hui, on pourra vous répondre, Père François-Xavier de Guibert, après plusieurs décennies de philosophie de la déconstruction, que Dieu était une idée et que les maîtres de soupçons l'ont largement emporté, que à la racine, les questions posées même par Claude Tresmontant n'ont même plus lieu d'être posées. Vous voyez, il y a cette idée-là même. Vous posiez tout à l'heure la question de l'utilité de la philosophie et même de ces réflexions-là. Est-ce qu'on réfléchit même encore à l'idée de savoir si c'est utile de s'interroger ?
Oui, mais la question de votre existence, que vous le vouliez ou non, elle reste malgré tout une question qui a une certaine importance. D'abord pour vous, et aussi éventuellement pour ceux qui vous entourent. Par conséquent, voyez-vous, on peut jouer avec la réalité, mais au fond, la réalité, elle s'impose à nous, notamment sur cette question fondamentale de l'origine de la vie, de notre vie, et finalement le terme de notre vie, au moins dans l'ordre des apparences, c'est-à-dire de notre mort. Personne n'est indifférent sur la question de l'origine de sa vie. Personne n'est indifférent en face de la perspective de la cessation de cette vie. Et donc, on peut faire des galipettes, on peut ignorer et l'origine et la fin. On peut finalement se mettre des œillères et être, comme le prédisait d'ailleurs Renan, un homme qui n'a ni passé ni avenir. Renan disait magnifiquement « l'homme libéral ». Et ça nous amène d'ailleurs à des considérations politiques actuelles. L'homme libéral, finalement, il naîtra orphelin et il mourra célibataire. C'est-à-dire que finalement, il n'a pas de parents et il n'a pas d'avenir. Eh bien, contre cette question et contre cette manière de voir les choses, je crois que c'est tout notre être qui proteste et qui, au fond de nous, nous rappelle que le réel existe, que la vie existe et que ce qui existe, eh bien, ne peut pas ne pas avoir origine et fin.
Claude Tresmontant venait de l'extrême gauche.
Il venait de l'extrême gauche, oui, mais c'était un homme profondément libre. Et ça, ce qui m'a beaucoup frappé, vous voyez, comme éditeur, c'est que c'était un homme qui était au-dessus des partis. Par exemple, nous sommes actuellement dans un pays qui est déchiré par les passions politiques. Eh bien, je le vois, je l'entends encore me dire, vous savez, au fond, la vérité est déchirée. Et il n'y a pas de parti qui puisse prétendre exprimer en plénitude cette vérité fondamentale qui est la valeur intrinsèque de l'homme. La valeur intrinsèque de l'homme, depuis son origine jusqu'à sa fin, dans sa dignité et dans le fait que finalement, eh bien, l'homme n'étant pas sa propre origine, il n'est pas à lui-même sa propre fin. Et donc, à travers ces réflexions essentielles, eh bien, évidemment, tous les programmes politiques nous semblent radicalement insuffisants et insatisfaisants. Ce qui veut dire que finalement, en face de la politique, le chrétien ne peut être qu'un homme insatisfait.
Ça, c'est une certitude, de toute façon. Précisément, hein, puisque alors, ce que vous, la vérité est déchirée par François-Xavier de Guibert, et en même temps, on a l'impression que les passions qui se déchirent aujourd'hui ont un relent extrêmement publicitaire et sont aussi définies par une logique de marché, finalement.
Oui.
C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans les combats... dans les combats politiques qui ont pu, et peut-être aussi, heureusement d'ailleurs, qui se sont, mais peut-être est-ce transitoire, on verra, mais là, ce que je veux dire, c'est que les techniques dont parle Tresmontant, la révolution technologique, tout cela, en particulier des médias, changent quand même énormément la donne, la psychologie même de nos contemporains, qui sont constamment dans le divertissement. Et finalement, pour l'Église, c'est une vraie question. Comment est-ce que je peux poser une question grave, ce que l'on fait depuis 40 minutes? J'imagine qu'il y a des gens qui ont peut-être un peu de mal à suivre. Mais comment poser des questions graves dans un univers fondamentalement axé sur le divertissement?
Ben oui, mais vous savez...
Pour vous, ça vous paraît évident, mais...
Non, mais je vous ferai remarquer d'abord que le divertissement, il est limité à quelques catégories assez restreintes de la population mondiale.
Non, on n'a pas la même conception du divertissement. Le divertissement, c'est ce qui va me détourner systématiquement,
oui, mais c'est
au sens pascalien, ce qui va me détourner de moi-même. Donc
tout
on est constamment détourné de soi-même. Quand vous avez des penseurs qui vous orientent sur vous-même et sur la finalité et l'origine, c'est très difficile. L'immense masse échappe en quelque sorte à ce questionnement même fondamental.
Oui, mais il n'empêche qu'au bout du compte, quelles que soient finalement les situations que nous pouvons avoir les uns et les autres, que nous soyons au fin fond d'un village africain ou un nanti dans une ville européenne, eh bien, au fond, la question ultime reste la même pour nous.
Vous le sentez-vous en tant que curé de campagne ?
Alors, moi, ce que je ressens fondamentalement, si vous voulez, c'est que la civilisation occidentale s'efforce de gommer et le début et la fin de la vie. Alors le début, n'en parlons pas, nous savons très bien comment. Et la fin, eh bien, je constate aussi à quel point, si vous voulez, la question de la mort est le plus souvent évacuée, minimisée, écartée. Je suis très frappé, si vous voulez, de la banalisation de la mort, je dirais de la matérialisation de la mort. Je dirais notamment d'ailleurs dans ce fait qui nous envahit de plus en plus de la crémation, qui est finalement une espèce de négation de la mort et une espèce d'appropriation de désir prométhéen, finalement, de gouverner sa propre vie jusqu'au bout. Au fond, si vous voulez, il y a dans le rapport que nous avons avec la mort quelque chose qui en dit très long sur nos sociétés. Et je crois que, finalement, si nos sociétés ont un malaise profond, parce qu'on ne peut pas nier qu'il y ait un malaise profond, jusque et y compris dans nos campagnes, eh bien, fondamentalement, voyez-vous, c'est parce qu'en fait, on refuse de considérer la vie à la fois dans son origine et dans sa fin. Dans son origine, eh bien, nous le savons, nous sommes des créations. Et c'est ce que, finalement, la biologie nous dit. et dans notre fin, en ce sens que finalement, eh bien, nous avons bien qu'au fond, si nous avons une origine qui n'est pas nous, eh bien, forcément, nous avons une fin qui n'est pas nous.
Est-ce que vous utilisez Claude Tresmontant dans vos homélies ?
Très souvent. Très souvent, parce qu'au fond, c'est un maître à penser. C'est un maître à penser au sens qui aide à penser, si vous voulez. Non pas en donnant des réponses toutes faites, mais en donnant une discipline de pensée. Et très souvent, voyez-vous, en face des difficultés que nous pouvons rencontrer, notamment dans le commentaire des textes, puisque finalement, nous n'avons qu'un objectif, c'est d'essayer de rendre accessible la parole de Dieu, en parlant de la manière la plus simple possible, eh bien, ce qu'on n'arrive pas toujours à faire, eh bien, voyez-vous, la pensée de Claude Tresmontant m'aide énormément, ne serait-ce que chaque fois que je rencontre les évangiles, eh bien, je m'efforce de lire la traduction qu'il en a donnée, parce qu'en fait, à travers cette traduction, ces quatre traductions de Jean, Matthieu, Marc et Luc, eh bien, finalement, je trouve une inspiration et une discipline de pensée.
Est-ce que ça remplit vos églises ?
Alors, ben non, j'aurais pas la prétention de vous dire ça.
Non, mais parce que c'est souvent quelque chose qui revient. C'est-à-dire le caractère parfois insipide peut-être des prêches qui ferait fuir
voyez-vous,
des personnes qui pourraient venir.
Pour revenir au premier texte que nous avons lu sur la question de la langue, je crois qu'actuellement, le drame du christianisme, c'est qu'il n'est pas connu, qu'il n'est pas compris, à cause des malentendus de langage profond.
Par exemple ?
Par exemple, je prends un mot essentiel qui est le mot « mystère ». Autrefois, on vous disait « bon, c'est un mystère, vous ne pouvez pas comprendre, circuler, il n'y a rien à voir ». Alors c'est un malentendu fondamental, c'est un drame. Parce que le mot mystère, ça ne veut pas dire qu'on comprendra jamais. Le mystère, tel que le langage courant le reçoit, ça veut dire que c'est quelque chose, c'est comme une boîte fermée dans laquelle on ne pourra jamais rentrer, qu'on ne pourra jamais connaître. Alors le mystère, au sens chrétien du terme, c'est le secret. Et ce secret, eh bien, il nous est donné, justement, à travers la parole de Dieu, d'y rentrer progressivement. C'est un mystère en ce sens que nous ne pouvons pas nous en donner à nous-mêmes la connaissance, mais c'est un secret dans lequel justement Dieu nous fait rentrer, c'est-à-dire qu'au contraire, loin d'être quelque chose dans lequel nous ne pourrons jamais pénétrer, c'est au contraire quelque chose dans lequel Dieu nous prend par la main pour nous faire rentrer.
Qu'on n'a jamais fini de comprendre.
Et qu'on n'aura jamais fini de comprendre. Quand, voyez-vous, j'allais très souvent, quand j'étais en région parisienne, à la cathédrale de Chartres. Et le parvis de la cathédrale de Chartres, il est souvent baigné d'une lumière éclatante en début d'après-midi. Et puis on rentre dans la cathédrale de Chartres, qui est extraordinairement sombre à cause de ses merveilleux vitraux d'un bleu incomparable. Et quand on rentre dans la cathédrale de Chartres, on a l'impression de rentrer dans une cave, dans un trou noir, obscur. Et puis au bout de quelques secondes, l'œil accommode, s'acclimate, et on commence à voir. Et on voit une lumière extraordinaire. Et voyez-vous, eh bien, le mystère, au sens chrétien du terme, c'est le secret dans lequel Dieu nous prend par la main pour nous faire rentrer et nous faire explorer cette cathédrale immense qui s'appelle l'amour qu'il a pour tous les hommes et que tous les hommes qu'il a finalement créé par amour. Au fond, voyez-vous, quand on comprend que les mots, à force d'être employés dans un mauvais sens, finissent par devenir des contresens, eh bien, on se rend compte que trop souvent, les mots que nous employons ne sont pas des instruments de communication, mais au fond, des obstacles à la compréhension. De même, le mot « foi », dont la racine en hébreu, et c'est pour ça que pour Claude Tresmontant, la matrice linguistique fondamentale du christianisme, c'est l'hébreu, qu'on ne peut pas connaître et comprendre le christianisme si on ne revient pas au sens génétique hébraïque des mots, eh bien, le mot « foi », dans le fond, il nous vient de la racine hébraïque « emouna », « amen », certitude de la vérité, ce qui est fort, ce qui est sûr, ce qui est solide, ce sur quoi on peut s'appuyer. Et chaque fois que les chrétiens disent ce mot magnifique « Amen »,
eh bien,
ils disent « c'est certainement vrai ». Quand quand un catholique communie et qu'il reçoit l'hostie, que le célébrant ou le diacre ou le laïc désigné lui tend l'hostie et qu'il lui dit « le corps du Christ », il répond « Amen ». Alors, c'est un drame si on pense que ça veut dire « ainsi soit-il », ce qui est absurde. Il répond « Amen », ce qui veut dire « oui, certainement vrai, c'est le corps du Christ que je reçois ». Et c'est parce qu'il a répondu « Amen » que le prêtre peut lui donner le corps du Christ.
Eh bien, c'est l'adhésion de l'intelligence.
C'est l'adhésion de l'intelligence à la vérité.
Père François-Xavier de Guibert, on est malheureusement obligé de se quitter. Ce colloque donc 13-14 mai, École normale supérieure, très rapidement. On peut dire que c'est la figure de Claude Tresmontant 20 ans après sa mort. Je n'ai pas forcément le temps de donner des éléments pratiques, mais on pourra les retrouver sur notre site internet. Et donc samedi 13 et dimanche 14 mai. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Père François-Xavier de Guibert, et de nous avoir initié à cette pensée de Claude Tresmontant et de nous avoir rappelé un petit peu qui il était et quelle était son utilité à le redécouvrir. À bientôt.